vous êtes bien sur RFI et je vous en remercie. Il est 3h à Paris.
Mathis Limano.
À la une, le vice-président américain sidère les Européens à Munich lors de la conférence sur la sécurité. J.D. Vance était attendu sur l'Ukraine, mais à la place, il s'est livré à une attaque en règle contre la démocratie en Europe. Des attaques inacceptables, répond Berlin, vous allez l'entendre. L'Europe et son addiction aux taxes, Donald Trump les trouve trop élevées et il va même de son analyse économique sur le marché intérieur des Européens. Explication à suivre. Et puis au Soudan, le plus grand camp de déplacés du Darfour Nord, de nouveau la cible d'intenses bombardements. L'Ukraine aurait peu de chances de survivre sans Washington. Les mots de Volodymyr Zelensky lors d'une interview à la chaîne NBC qui sonnent comme un ultime avertissement 2 jours après l'onde de choc provoquée par l'appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. La guerre en Ukraine au cœur des discussions ce vendredi à Munich lors de la conférence sur la sécurité en présence de J.D. Vance. Beaucoup espéraient des explications de la part du vice-président américain après ce fameux échange très critiqué. Mais à l'arrivée, J.D. Vance n'a fait qu'effleurer la politique étrangère pour privilégier une attaque en règle contre l'Europe où la liberté d'opinion serait menacée, selon lui, Pascal Thibault.
Un règlement de compte sans précédent avec l'Europe. C'est ainsi que la chaîne de télévision allemande ARD résume le discours du vice-président américain. J.D. Vance a, avec différents exemples, dénoncé des pays européens qui limiteraient la liberté d'expression, exerceraient une forme de censure sur les réseaux sociaux et rejetteraient certaines forces politiques, comprenez les partis populistes de droite.
Il semble de plus en plus que des intérêts très enracinés se dissimulent derrière des mots hérités de l'époque soviétique comme désinformation. Pour lutter contre des personnes qui ont des points de vue alternatifs ou, oh mon Dieu, osent voter différemment ou même gagnent des élections.
L'assistance à la conférence sur la sécurité de Munich a écouté pétrifié le discours de J.D. Vance. La mention du cordon sanitaire a été perçue comme une allusion directe aux élections allemandes et au parti d'extrême droite AfD. Sa présidente a d'ailleurs salué le discours du vice-président américain. Sur place, le ministre de la Défense allemand, le social-démocrate Boris Pistorius, a évoqué les déclarations inacceptables. Le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine commente « Une telle immixtion américaine dans la vie politique allemande est sans précédent depuis la dénazification après la guerre. À l'époque, il fallait lutter contre les nazis. Aujourd'hui, Vance vante les mérites de l'AfD. » Pascal Thibault, Berlin RFI.
La guerre en Ukraine passée au second plan donc pour par J.D. Vance, malgré un entretien avec Volodymyr Zelensky au cours duquel le vice-président américain a affirmé vouloir parvenir à une paix durable. Du côté du président ukrainien, on évoque une bonne conversation, mais le ton, lui, se durcit. Il estime que des négociations de paix sans Kiev et sans l'Europe seraient inacceptables. Des négociations, oui, mais pas avant que Kiev, Washington et leurs alliés aient adopté une position commune, assure le président ukrainien, soulignant que le plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit n'était pas prêt. Pas de date communiquée pour le moment, mais l'Arabie Saoudite dit déjà son enthousiasme à l'idée d'accueillir un sommet Trump-Poutine, une idée émise par le président américain après l'échange téléphonique avec son homologue russe. Le royaume se félicite de la tenue de ce sommet et réaffirme ses efforts pour parvenir à une paix durable en Ukraine, indique le ministre saoudien des Affaires étrangères. L'Europe est-elle accro aux taxes? C'est en tout cas ce que pense Donald Trump. À partir d'avril, Washington prévoit de relever ses barrières douanières avec ses partenaires commerciaux, dont les Européens. Le président américain qui va jusqu'à remettre en cause la politique fiscale des pays du vieux continent. Agnieszka Kumor.
Donald Trump souhaite de la réciprocité dans les échanges commerciaux avec les États-Unis et il estime que l'Europe taxe trop les produits américains. Mais selon les calculs de l'OMC, si l'UE taxe légèrement plus certaines marchandises venues d'outre-Atlantique, ramenées au volume échangé, les droits de douanes américains sont plus élevés que ceux de l'UE, en moyenne 1,4% contre 0,9%. Cela s'explique parce qu'une part plus importante des exportations américaines entre en Europe sans taxe. En fait, ce qui déplaît fortement à Donald Trump, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée que doivent payer les marchandises qui entrent en Europe. Mais ce qu'il oublie, c'est que les productions européennes y sont aussi assujetties tant qu'elles sont vendues en Europe. Bien sûr, elles en sont exemptées quand elles sont exportées vers les États-Unis. Mais outre-Atlantique, on leur appliquera une taxe au moment de la vente aux consommateurs, en moyenne 6,6%, comme c'est le cas des produits américains.
Agnieszka Kumor, service éco d'RFI. Le Brésil tente, lui, de tenir tête aux États-Unis. Le président Lula promet une réciprocité face à l'augmentation des droits de douane sur l'acier annoncée par Donald Trump et envisage de saisir l'Organisation mondiale du commerce en cas de taxe sur l'acier brésilien. Avec plus de 4 millions de tonnes d'acier exportées aux États-Unis l'année dernière, le Brésil est le deuxième fournisseur derrière le Canada. Au Soudan, le plus grand camp de déplacés du Darfour Nord, de nouveau la cible d'intenses bombardements d'artillerie. Déjà frappé l'an dernier, le camp de Zamzam fait cette fois face à une nouvelle escalade. Les forces de soutien rapide sont accusées d'y avoir envoyé des combattants. Mardi et mercredi, de violents affrontements entre les FSR et l'armée soudanaise ont fait de nombreux blessés et plusieurs morts dans le camp. Médecins sans frontières alerte. Son personnel reçoit des blessés mais ne peut pas les soigner faute de capacité chirurgicale. L'hôpital le plus proche à 15 km au sud d'El Fasher est inaccessible en raison des combats. Le témoignage de Michel Lacharité, responsable des opérations d'urgence pour MSF, au micro de Christina Okello.
Le camp est complètement encerclé par les forces de soutien rapide et les civils n'ont nulle part où aller. Certains ont décidé de fuir par les moyens qu'ils pouvaient, certains ont rejoint quelques villages, mais c'est vraiment une infime minorité de personnes qui arrivent à bouger. Les combats ont détruit une partie des systèmes d'eau qui permettaient que les populations puissent boire, donc tout le système d'eau qui était au nord a été détruit. Et il faut savoir que les combats se sont concentrés sur Zamzam, mais il y a aussi d'autres combats dans des villages à proximité qui a provoqué un nouvel afflux aussi de déplacés vers Zamzam. Donc si on combine une partie du camp qui a brûlé, de nouvelles personnes qui arrivent sur le camp, on se retrouve avec une densité de population un peu plus importante, au même moment où il y a une pénurie ou destruction des systèmes d'eau, et on ne parle pas non plus de l'accès à la nourriture, qui depuis des mois est extrêmement précaire, donc la situation ne fait que se dégrader. Donc Médecins sans frontières, on demande que les civils puissent se diriger là où elles le souhaitent, sans qu'elles soient attaquées par les forces de soutien rapide, et bien sûr, il faudrait restaurer l'accès humanitaire à la ville de El Fasher et au camp de Zamzam.
Le président congolais dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, Félix Tshisekedi a évoqué la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combattants du M23 soutenus par le Rwanda continuent leur progression dans le sud Kivu. Suite aux derniers événements, le président Félix Tshisekedi a justement écourté son séjour en Allemagne pour rentrer à Kinshasa. Il ne se rendra pas au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba comme c'était initialement prévu. Dans un communiqué sur X, l'armée libanaise promet d'agir avec fermeté et d'interpeller les auteurs de l'incendie. Réaction après qu'un véhicule des Nations Unies a été incendié près de l'aéroport de Beyrouth par des partisans du Hezbollah. La force de l'ONU au Liban dénonce un possible crime de guerre et demande aux autorités libanaises une enquête immédiate. Un officier a été blessé. RFI, les 4 heures passées de 8 minutes à Beyrouth, une heure de moins à Grenoble, la ville des Alpes françaises, toujours sous le choc après cette attaque, mercredi, attaque à la grenade contre un bar associatif. Le hasard du calendrier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau était sur place ce vendredi afin de présenter ses solutions pour lutter contre le banditisme et le narcotrafic. Un déplacement déjà prévu depuis le début du mois. Et il y avait comme un air de déjà-vu, Victorien Villaume.
Ville différente, mais discours très similaire. Il y a 3 mois, c'était à Marseille que Bruno Retailleau listait ses solutions contre le narcotrafic. À Grenoble, le ministre de l'Intérieur dresse toujours le même constat dramatique.
C'est une déferlante, notamment de drogue. Aujourd'hui, un tsunami blanc même. Le narcotrafic, ce sont à la fois des enfants soldats et des enfants victimes.
Et livre le même message de fermeté.
L'idée qui doit nous guider, c'est de faire du combat contre le narcotrafic et la criminalité organisée, la même chose que ce que nous avons fait pour le combat contre le terrorisme, avec des résultats.
Le ministre qui a récemment annoncé sa candidature à la présidence de son parti, les Républicains, s'affiche sur le terrain intéressé par les problèmes des Français. Bruno Retailleau rappelle qu'un texte de loi contre le narcotrafic poursuit sa navette parlementaire.
Il s'agit de reprendre le contrôle de l'espace public. Bien sûr, sur la voirie, dans les halls d'immeubles, mais aussi avec des fouilles dans les parties communes, dans les caves, pour chercher de la drogue, pour chercher des produits de contrebande, des CIA et de contrebande, pour chercher des armes.
Pour le premier flic de France, cela mettra du temps, mais l'État français obtiendra une victoire contre le narcotrafic.